de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous, comme si l'on m'était offert un édifice, sous prétexte que les bourgeois sont dans les bouts.
Amis de Radio Occitanie de la Poésie, bonsoir. Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous avons dans nos studios de la rue de Sally Jean-Michel Tartère. Jean-Michel, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de ton dernier livre, Vers l'été, suivi de Fractions du jour, publié aux éditions NEB. Mais si tu le veux bien, avant de commencer à parler de cette publication, mais également bien sûr des publications antérieures de Jean-Michel Tartère, nous allons présenter quelques publications que nous avons reçues. Alors, tout d'abord, les revues de poésie, parce que je crois que ce sont elles qui font connaître quand même la poésie contemporaine hein, actuellement. Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance de ce travail de diffusion que sont les revuistes. Nous savons que, par exemple, Michel Cozem, puisque tu es au comité de rédaction d'Encre Vive, et quand on regarde ce qu'a réalisé Michel Cozem comme publication pour faire connaître les poètes, et son une action sur la diffusion de la poésie, c'est quelque chose qui me semble être particulièrement important. Oui. Donc, les revues de poésie, il faut en parler. Alors, nous avons la revue Nouveau Délit, revue de poésie vive, qui est animée par Cathy Garcia, qui fait paraître son numéro d'avril-mai-juin 2016, c'est le numéro 54, avec d'excellentes illustrations de Henri Cachou. Henri Cachou, pardon, j'ai dit Cachou, c'est Cachou la jaunie, non, c'est Henri Cachou. Alors, nous avons là, on retrouve excellente illustration, c'est toujours fait d'une façon vraiment à la fois très écolo, puisque c'est du papier recyclé, etc., mais c'est vraiment fait au cordeau. dans sa présentation, tu vois, comme les illustrations sont vraiment très bien,
C'est très bien fait,
bon,
oui.
très très bien fait, très agréable à lire, c'est vraiment très 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 agréable.
Cathy Garcia, elle est chroniqueuse aussi,
Oui, elle fait des chroniques
dans la revue
de...
Traversée, il me semble.
Oui, voilà, oui. Et elle fait des notes de lecture qui sont toujours très très intéressantes. Et elle a également, elle publie de la poésie. Elle est à la fois poète, photographe et également plasticienne. Alors, dans ce numéro, elle rédige un éditorial qui est toujours très intéressant. Et je signale aux auditeurs qu'ils peuvent, sur notre site les-poètes.fr, relire cet éditorial et tout le sommaire de la revue Nouveau Délit numéro 54 à notre rubrique parution. Vous le trouverez là. Alors voici ce qu'elle dit dans son dernier éditorial. Exister est un écartèlement permanent entre spleen et idéal, pensait Baudelaire, mais savoir vivre, c'est savoir accepter sans se résigner, savoir lâcher prise sans lâcher la main de l'autre. Renoncer au bonheur mirage, ces innombrables projections du système sur l'écran de nos désirs, jusqu'au viol même de notre intégrité. Achète, consomme, travaille, encore pour acheter. Consommer sans poser de questions et tu seras heureux. Pas encore aujourd'hui, mais demain, oui, c'est certain, c'est prouvé par la science. Demain sera le grand jour, demain tu seras riche, le héros de ta vie, admiré, adulé, envié, car tu le mérites, avec ce qu'il faut de peur pour avoir besoin de se protéger derrière des remparts d'achats sécurisants. Il y a les belles choses, les savoureuses, et ne ce seront pas des choses, mais des êtres et des sentiments, des émotions, des sensations, des échanges, des partages, des solitudes aussi pleines et débordantes de vie. Il y a les peurs, oui, innombrables, envahissantes, les mauvais pressentiments, les ennuis à répétition, les injustices, les coups du sort, et qui s'acharnent, et tout ce qu'il faudrait comprendre pour transformer, se transformer soi, sans savoir s'il faut avancer ou reculer, s'il faut ci, s'il faut ça. La mécanique enrayée du mental, l'envie de dormir. L'argent reste le problème omniprésent, omnipotent, un piège infâme, le plus toxique des mirages, la plus cruelle des machettes. Cette peur de manquer, de chuter encore plus bas, cette tache sur soi qui s'agrandit et nous définit plus que n'importe quoi d'autre. Pauvre. Cette immonde d'être défini par cette tache, tout le monde le sait, mais rien ne change. Une seule chose compte, en avoir ou ne pas en avoir. Dans une société aussi férocement individualiste que la nôtre, ce qui fait lien, c'est d'en avoir. Ce qui ouvre toutes les portes, aussi vaines soient-elles, c'est en avoir beaucoup. Une seule planète, plusieurs mondes qui ne se côtoient pas, l'un d'eux est en train de dévorer tous les autres. Voilà l'éditorial donc d'une revue de poésie qui est assez inattendu. Mais je trouve que c'est bien. Alors après, bon, il y a un sommaire qui est tout à fait remarquable, hein, comme toujours, hein, dans cette revue. Mais je pense que l'éditorial de Cathy Garcia, qui dit cette difficulté de vivre, cette difficulté du quotidien de vivre, est quand même intéressant parce que on va pas le retrouver sur les autres revues, bien sûr. Alors, il faut dire qu'elle fait ça, c'est vraiment une œuvre militante,
Il s'est engagé, oui.
une œuvre totalement militante de la poésie. Et elle réussit parfaitement. C'est-à-dire que chaque numéro, quand même, est un numéro toujours hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, pour vous abonner à cette revue, ça vous coûtera 28 euros pour 4 numéros. Et il faut vous adresser à l'association Nouveau Délit, à l'ETOU. C'est à Saint-Cyr-la-Popie, 46 330. Saint-Cyr-la-Popie, là où était André Breton, un des plus beaux villages de France. Voilà, donc vous pouvez regarder le sommaire de cette revue sur notre site les-poètes.fr. Je pense que nous reparlerons de cette revue, je lirai des extraits. Alors, comme tu le vois, Jean-Michel Tartère, c'est une revue qui est très bien faite, très agréable. Il y avait de très belles illustrations. Hein. C'est toujours, il y a vraiment, c'est comme un livre d'artiste. Moi, j'ai dit, c'est vraiment un livre d'artiste. La revue en elle-même, je crois qu'elle est à 6 euros. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment dérisoire. Voilà, nouveau délit avec ce travail vraiment fantastique qu'accomplit notre amie Cathy Garcia. Et puis alors, Diérès, donc on change là de format un petit peu parce qu'on a un véritable livre, hein. 15 euros le numéro, un numéro fleuve, plus de 300, près de 320 pages, près de 320 pages. Donc la revue Diérès, là aussi un éditorial, mais qui est un peu trop long pour que je puisse le lire en entier, de Daniel Martinez, où il dit comment retrouver trace du fil déclencheur de l'écriture et de la puissance de saisir, qui fait fi de la formule pour approcher la magie du verbe. Il pose la question entre l'instance vigilante de l'esprit et la course des jours où prendre date, tout l'être se condense, sa volonté d'expression, son désir de résister aussi bien à ce qui pourrait la parasiter, rendu impossible par un retrait et un décalage avec le réel, ses enchaînements obligés. Le « il faut coûte que coûte » qui fait écrire renvoie indirectement un sentiment de culpabilité, celui d'être de trop, et d'avoir à le compenser de quelque manière. En retour, la volonté du scripteur est de se livrer, de donner le meilleur de lui-même. Ce qui s'écrit est une requête, c'est de même une adresse à un dédicataire réel ou virtuel. Donc il parle de la nécessité absolue de l'écriture. Il n'est pas loin d'ailleurs de ce que dit aussi Cathy Garcia en ce domaine, ils se rejoignent. Voilà. Alors dans ce numéro, qui est un numéro effectivement là aussi toujours prestigieux, on va trouver les grands noms de la poésie contemporaine, mais il y a toujours un domaine étranger. Alors le domaine étranger sur ce numéro, c'est le domaine italien et puis le domaine portugais. Là, on va découvrir cette poésie italienne, cette poésie portugaise, hein, qui est de première, alors vraiment d'une qualité absolue. Et puis, on va retrouver Richard Rognier, J'aime Sacré, pour lequel on a fait une émission il y a peu de temps.
Oui, je l'ai écouté.
Voilà, Valérie Michel, Annick Breton, Jean-Pierre Poels, Daniel Corr, Isabelle Lévesque, Hervé Martin, Philippe Maty, etc., etc. Donc, Hélène Mohan, plus des informations sur le théâtre, des notes de lecture, d'excellentes notes de lecture qu'ils appellent Bonnefeuille. Hein, il y a là, ça part de la page 273 à la page 317, ce sont des notes de lecture, donc ce qui est indispensable pour savoir ce qui se publie en matière de poésie. Voilà. Pour ne pas, je ne lirai pas d'extrait de cette magnifique revue, je le réserve pour une émission prochaine pour ne pas handicaper donc sur le temps de notre invité. Sachez que vous pouvez vous abonner. L'abonnement va vous coûter 45 euros chez Daniel Martinez, 8 avenue Hoche, 77 330 Ozoir-Laferrière. Tous ces renseignements seront sur notre site les-poètes.fr. Et puis pour finir, Jacques Canu qui publie Copie Blanche 5. Alors là, il faut commander directement chez lui. Jacques Canu, 19 Allée Lagarasic, 32 000 à Auch. Donc on continue là, ce ton des carnets confidentiels. Suis-je un auteur à facettes, demande-t-il. Tant d'éblouissements auxquels me consacrer. À trop me connaître, conserverai-je le pouvoir de m'exalter. Comme ce poète admiré, disséqué en syllabes, si peu de mots, atteindre le fond ultimement secret de soi-même. Il s'est assis derrière une page blanche pour sombrer dans l'autodérision. Alors là aussi, il y a un regard un petit peu, avec cette autodérision, mais qui reste quand même. Où il dit chercher sa voie, on suit inexorablement, encore et toujours, les mêmes itinéraires. Au fil des recueils, j'ai cru parfois leur échapper. Heureusement, il n'y échappe pas. Donc il y a cette autodérision, mais cet enthousiasme quand même toujours pour la poésie et pour l'écriture chez Jacques Canu. Voilà ce que je te souhaite également, Jean-Michel Tartère. Alors Jean-Michel Tartère, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir. Il est né à Toulouse, hein, tu es né à Toulouse.
Oui.
Tu as été libraire, puis tu es actuellement professeur de lettres modernes. Et tu as publié une trentaine de recueils de poésie et tu collabores à de nombreuses revues littéraires, dont la revue Encre Vive, dont tu es membre du comité de rédaction. Alors, on va parler de ta dernière publication. Au préalable, je vais rappeler que tu as publié chez Encre Vive, par exemple, dont vous pouvez le voir sur le catalogue d'Encre Vive, mais également sur le site d'Encre Vive, puisqu'Encre Vive a un site.
À ce propos, je voudrais quand même saluer le travail de Jean-Marie David Lebré, qui a réalisé vraiment quelque chose de
pour le site.
Extraordinaire. Pour le site, c'est lui qui a fait le site d'Encre Vive. C'est aussi un ami, qui est biographe, bibliographe de grands auteurs de romans policiers, notamment, et qui est libraire aussi à la librairie Sorams, à Montpellier. Et qui a fait là un travail extraordinaire. D'ailleurs, Michel Cosem lui a la remercié pour ce travail. Je sais qu'ils correspondent tous les deux, donc parce que Michel Cosem lui envoie évidemment toutes ses productions. Oui. Et donc Jean-Marie fait la synthèse, quoi.
Voilà. Alors là, tu as parlé du Claude Bretin du site.
Exactement. On peut le comparer à Claude Bretin.
Du site d'Encre Vive.
C'est ça.
Voilà. Tu nous rappelles le nom de ce site, Encre Vive. Alors, c'est encrevive.vix, wix.com, Michel Cosem. Voilà.
C'est ça.
Vous trouverez également ces renseignements sur notre site. les-poètes.fr, on les met bien sûr en ligne. Alors, donc là tu publies Encre Vive, Pandore, Blue Walker, Le Gorse, alors encore des mots anglais, Marine, oui Marine on avait fait une émission là-dessus, Rhythm de Chinatown.
Rhythm de Chinatown. Oui, j'en avais lu quelques extraits en octobre 2014 quand j'étais passé.
C'est ça, c'est Chromatisme ça. D'un cycle, Junk, Automne, Cité Corsaire, Lumière crue, Canicule, Toulouse Blues, on va en lire quand même quelques extraits, je pense, de Toulouse Blues, et Vers l'été, suivi de Fraction du jour, dont le dernier livre dont nous allons parler, qui vient d'être édité par les éditions NEB. Alors, on va, si tu veux bien, avant d'aborder Vers l'été, suivi de Fraction du jour, on va reprendre Toulouse Blues, hein.
Oui, qui est le troisième volet. C'est une.
Donc tu l'as publié en trois.
En trois volets, trois parties. Il y a eu le premier qui date d'il y a 10 ans déjà, ou 11 ans même, 2005. Et puis j'ai eu envie de m'y remettre sur Toulouse Blues. Voilà, ma passion pour le jazz m'y a mené naturellement. Il y a un deuxième volet qui est paru il y a pas longtemps. Et puis là c'est le dernier là, Toulouse Blues 3. Voilà, qui t'est dédié, Christian.
Je te remercie. Alors, on va peut-être écouter cette hymne à la ville.
Je vais en lire quelques. Ville.
Oui. Alors.
Un peu avant le lever du jour, quelque chose retient dessous. Indéfinissable poids de la langue qui tend à nous projeter hors, peut-être hors de soi. Donc, rentrer, glisser sans plus se poser de questions dans l'ordinaire d'une journée de travail, sentir l'aurore, ni plus ni moins. Sans se la raconter, en évitant le trou, et suivre le mouvement des quartiers qui s'éveillent. mais la peur, toujours là, comme un support de langue. On écrit sans être jamais sûr de rien. Seule résiste la volonté d'être en prise. On tâche d'apprendre à lire, à regarder, à se laisser prendre par la vie. Les rues roses, les gens des places et des trottoirs, laissez toujours d'aller de l'avant, sans rien forcer. Blues. Vous fatiguez pas les gars, il est cuit. C'est là, dessous, bizarre. On ne sait pas sur quoi accorder. Une voix qui lance comme un échec, long. La rue qu'on remonte tard, au bout. Des taches rouges dans le soir qui tombe. Bien fatigué quand même, oui. Fin d'après-midi. La rue Arago qu'on descend, puis à droite sur le faubourg Bonnefoy, direction Casino, supermarché. En tête, ce qu'il faut. Huile d'olive, sucre, thon, œuf, jus d'orange, eau. Surprenante cette abondance. On dirait la caverne d'Ali Baba. Vraiment heureux. La chance qu'on a d'avoir son assiette toujours à portée de main. Yaka. Ce pourrait être aussi les restos du cœur. Qui restent une issue. Et ce sont mots du ventre, mots de reconnaissance, où germe l'émotion. Brume, on disparaît. Des monts sous la rature. Des trottoirs jusqu'au quai, marche silencieuse dans l'épaisseur de l'air. Pas étouffé, regard vide, aucune illusion, cessez là, le poème n'en veut plus.
Voilà, alors ça c'est Toulouse Blues numéro 3, hein. Je pense qu'il faudra, peut-être que tu vois, dans une prochaine période, de rassembler peut-être aussi les trois dans un même recueil, hein, de reprendre ça, de manière à ce que vraiment cette suite puisse couler comme ça. Hein. En tout cas, les auditeurs peuvent se procurer ces trois fascicules. Aux éditions Encre Vive, Michel Cozem, 2 Allée des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Ceci sera bien entendu sur notre site, et également je pense que ça doit figurer sur le site d'Encre Vive, hein, ces publications.
Oui, hein, oui, il vient de sortir, je pense que ouais. De toute façon Jean-Marie le mettra, oui.
D'accord. Alors là on voit, c'est un hymne, j'arrivais pas à trouver le nom tout à l'heure, c'est l'hymne à la ville, hein, que tu as fait, c'est ça. Semble-t-il.
Oui, oui. Ouais.
Et en même temps, on a l'impression d'une espèce de déambulation aussi dans la ville, hein, j'écoutais.
C'est ça. Ouais. Une errance.
Vois, oui.
Une errance.
Oui.
Et une errance qui est portée aussi par, ce qu'on peut vivre à un moment donné, de mal ou de bien, sur un trottoir, en descendant une rue, en montant une rue, une allée, un boulevard, bref. La vie au quotidien dans Toulouse.
Et avec ce fond de jazz,
hein, c'est ça.
Que l'on entend là, que tu as voulu vraiment que l'on entende. Et il y a ce texte, par exemple, Coltrane. Hein,
oui.
Coltrane,
oui.
Un passage de Blue Train.
Oui.
La ville s'endort, on se souvient, on rentre du rolling boxing, d'une séance de kung fu. Alors, est-ce que tu fais du kung fu?
Royal Boxing. C'est le royal Boxing.
Royal
oui,
boxing.
Parce que j'ai pas.
C'est quoi le Royal Boxing? Quelques...
Royal Boxing, c'est un centre de boxe thaï, mais où on donne aussi des cours de kung fu, et dans le quartier de Saint-Cyprien. Et j'ai été quelques années là, oui.
Ah oui.
Oui. Et donc là, j'évoque un souvenir où, ben, ça me vient avec cette musique de Coltrane que, Coltrane ou Miles Davis que j'écoute régulièrement le soir. Et qui me porte, quoi. Et donc là, c'est en fait cette musique, jazz, j'ai baigné dedans et depuis tout petit dans le jazz. Mon père et mon oncle écoutaient ça, dès ma naissance, je dirais, et puis ils en sont imprégnés aussi. Du coup, j'ai baigné là-dedans très jeune et voilà. Et donc, j'en écoute en permanence, quoi, du jazz. Je suis fou de Coltrane et de Davis, de toute façon. Et donc cette musique-là me porte l'écriture et là en l'occurrence c'est un souvenir qui me revient, je sais pas pourquoi, là en écoutant Blue Train de Coltrane, Train comme on dit Miles Davis.
Alors tu dis on est aux abords de la rue des Champs-Élysées, sac sur le dos, veste à capuche parce qu'il fait déjà froid ces soirs d'automne, la sortie de parking souterrain, une Aston Martin DB9 GT débouche là devant sur le trottoir, moteur qui ronronne, disparaît aussi vite qu'elle est venue, rare, silencieux, traîne encore comme tout près dans la mémoire, tourne dans le quartier, fantôme. Voilà. Donc on écoute ces relents de jazz, hein, qui sont derrière, et puis ce sont des flashs de scènes que tu saisis dans la ville, en même temps que on se souvient du Royal Boxing, hein, donc c'est-à-dire tu mêles ces flashs à d'autres flashs que tu as dans la tête.
Hein. En fait, là c'est une scène de rue, quoi. J'arrive, je rentre du Royal Boxing et là je vois déboucher là d'un parking souterrain la Aston Martin, quoi, ce qui est rare quand même. C'est un plaisir rare de voir une Aston Martin déboucher en pleine nuit comme ça, et voilà, j'aime beaucoup ces voitures. C'est la voiture de James Bond, mais outre cela, c'est quand même impressionnant de la voir devant soi, quoi. Et c'est un vrai bolide, quoi. C'est un monstre. Et donc ça, oui, c'est vrai. Ça tourne autour de cette finalement à la fois de la partition de Train, mais aussi de cette voiture là qui m'a fasciné quelque part, quoi. Et ça traîne encore dans la mémoire, oui, comme un fantôme, en fait.
C'est pas la voiture d'Austin Martin, c'est pas une Austin Martin que Camus situait, là, que Gallimard
pilotait. Je sais pas.
Voilà. Voilà. Alors bon, ça, ce sont des comme tu dis, c'est une scène de rue.
Ouais. Hein.
Donc on va trouver, alors là déjà, dans la façon dont tu écris, dans ta démarche poétique, tu pars toujours, me semble-t-il, hein, enfin, en tout cas, dans ces publications-là, que ce soit Toulouse Blues ou Vers l'été suivi de
Fraction du jour,
tu pars toujours du réel absolu qui est le quotidien.
Oui, c'est ça.
Hein?
Oui, oui, oui.
Des scènes du quotidien.
Oui, des scènes du quotidien. À partir des scènes du quotidien. Ça, parce que moi, je pense qu'on peut pas se détacher de ce qu'on voit, en tout cas, des sens, quoi. Tu parlais la dernière fois effectivement, quand j'étais venu la dernière fois à ton émission, tu parlais d'une poésie de la sensation. Et c'est ça. C'est-à-dire que les sens, mais je pense que c'est pour la plupart des gens qui écrivent, on est mobilisé par les sens, quoi. Et donc ça part de là, oui, ça part de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sens, de ce que je touche ou goûte, quoi. Hein, c'est ça. Et donc et en même temps, c'est cette espèce d'interaction entre l'extérieur et le dedans, le dehors et le dedans. Je vais toujours chercher quelque part au creux du soi. Parce qu'il y a la scène qui est dehors, mais ça part aussi, c'est une espèce d'interaction entre ce que j'éprouve là, à ce moment-là, quand le poème veut bien venir, évidemment, et ce qui se passe dehors, quoi. Donc l'interaction entre l'extérieur, l'intérieur, voilà. Et cette part de ce creux de soi, voilà, cette part de soi où je creuse là, et c'est finalement toujours l'enfance, je m'aperçois. Essayer d'aller rejoindre cette spontanéité de l'enfance, quoi. Le jazz, d'ailleurs, ça fait partie de l'enfance, quoi, chez moi.
Et garder l'enfance, c'est garder en soi la poésie.
Hein. Ouais, c'est ça. Je suis persuadé de ça.
La poésie, ce n'est que essayer de retourner à cet état de l'enfance qui malheureusement n'arrête pas de nous échapper.
Et oui, c'est ça.
En fait, l'enfance, c'est aussi la pureté, quoi. Du regard sur le monde.
Voilà, essayer de ouais, c'est...
Alors, il y a
transfigurer quelque part, c'est ça.
Une scène,
c'est ça.
Par exemple, dans ce que tu dis dans le 12, Bouge 3, agressé dans la rue, ça arrive.
Non, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, oui. J'étais sur le trottoir, un jeune, je ne sais pas, avoir 24, 25 ans, qui a sans doute trouvé que je le frôlais un peu trop, et donc il m'a poussé comme ça. Mais c'est pas la première fois, ça m'est arrivé d'autres fois de me faire agresser, oui.
Agresser dans la rue, ça arrive. Encore ce matin, sur un trottoir près de la gare, on fait comme on peut pour se défendre, comme on peut, avec des mots. Passe, barré, rayé, le train à l'heure, il y a pire. Voilà. Donc ce sont des réflexions. Bon, comment ça arrive à faire le poème, hein, c'est-à-dire, bon, c'est une scène du vécu, toujours, par toujours de quelque chose quand même qui t'a impressionné au sens le plus étymologique du terme. Et de cette impression, tu vas, grâce à ce miracle, qui est un miracle toujours renouvelé, hein, du langage, de la langue, du mot, tu vas en faire quelque chose et tu vas en faire un poème. Hein, c'est-à-dire un type qui se bouscule dans la rue. Qui peut aussi laisser une impression désastreuse. Hein. Je me souviens d'un retour de Barcelone où j'étais devant la gare avec ma femme et ma fille, on attendait. Et il était, je sais pas, quelque chose comme 3h ou 4h du matin, on a attendu longtemps, car il veut bien vouloir un cœur nous prendre. Et effectivement, on a assisté à ça. C'est une possibilité d'agression de marginaux qui sont là près de la gare.
C'est gratuit, et c'est totalement gratuit. Hein.
Cette impression, voilà, d'insécurité, de dire tiens, il suffirait d'un rien pour que effectivement une vie peut basculer là. Dans un simple geste.
Mais là, en fait, c'était pas du tout un marginal, le gars. C'était quelqu'un qui sortait de boîte ou je ne sais quoi, et qui était très bien mis d'ailleurs sur lui. Hein, voilà. Mais très agressif, quoi. Enfin, c'est sa copine qui s'est excusée.
Pour lui. Ouais. Alors, il y a de belles choses aussi, quand même, un jardin public, un banc dans un jardin. Du fond du ventre, des mots viennent silencieux disparaître. Robot rythme, où Babil soulage librement on écrit vers midi. Bon. Là, on sent quand même le gars heureux.
Ouais, hein, c'est, voilà, ouais,
c'est ça. Bariton. Alors, bariton. Bon, voilà, on pense au papa de Nougaro. Hein, bariton. Toi qui aimes le jazz, etc., qui aimes Toulouse, bariton. Parfois, l'envie de chanter Toulouse, ça prend d'un coup. Comme tirant la chasse sur l'hypocondrie, l'arrière-pensée, l'orgueil. Dans les graves.
Et bariton, curieusement, j'aime beaucoup ce degré-là de voix. Parce que je pense qu'il me correspond. C'est un collègue du collège où je travaille, un collègue de musique, qui m'a dit que j'avais une voix de bariton Martin.
Ah oui.
Qui est une voix de bariton, ah oui. Martin, parce que il y a quand même une clarté dans la voix. Oui. C'est pas totalement au fond, il paraît. Voilà, donc merci à Jean-Luc Ginestin de m'avoir dit ça.
Alors, Jean-Michel Tartère, tu publies aux éditions NB un très beau livre, hein, très très beau livre.
C'est vrai que
très bien fait, bien mis en page, qui ne coûte d'ailleurs que 13 euros. Qui s'appelle « Vers l'été » suivi de « Fractions du jour ». Alors voici ce que l'éditeur met en quatrième de couverture. La simplicité apparente de ses courts poèmes, sobre et suggestif, peut faire écho à la sensibilité de chacun. C'est une poésie du quotidien, fine et subtile. Elle établit des correspondances entre des sensations, des lieux, des moments, des atmosphères, dans un style épuré et impressionniste, on y reviendra. Sa musique, très contemporaine, peut nous accompagner longtemps. Voilà ce que dit l'éditeur donc, de Vers l'été, suivi de Fractions du jour, avec une belle photographie. Tu peux nous parler de cette photographie?
Et cette photographie, c'est Dominique Fernandez, donc, qui est auteur, mais aussi donc, auteur de NEB, mais aussi qui fait partie du comité de lecture. Qu'il a choisi et qu'il a prise, bien sûr, la photographie de lui. J'en ai discuté avec, non pas directement avec lui, mais avec Madame Van Wessler, qui est aussi la maquettiste et qui s'occupe de tout ce qui est de l'ordre de la mise en page, voilà, et de l'édition. Je l'ai conservée parce je trouve qu'elle correspond bien au climat du livre.
Oui.
Ce canal là.
J'aime beaucoup.
Oui.
Et bon, c'est bien que Dominique Fernandez, donc nous saluons. Hein. Nous avons eu le plaisir de faire une émission avec lui là,
oui,
pour Fragments d'exil.
Oui,
mais elle est très belle cette photo, elle est en noir et blanc.
Elle est très belle.
Et je trouve qu'elle s'accorde très bien en plus avec l'édition. Elle est dans tout à fait dans la mouvance de ce qu'ils font. Hein.
Oui, c'est ça. Et oui, le concept NEB.
Ah oui, c'est oui, ça. Oui, NEB. Oui. C'est vraiment très bon.
Oui.
Et alors, c'est le canal du Midi qui, effectivement, traverse notre ville
c'est
lui donne un caractère quand même très, très, très particulier. Alors, on va trouver, il y a là la réunion de deux recueils, en fait. Hein. Le premier, c'est Vers l'été, et le deuxième, c'est Fraction du jour. Alors, on va retrouver
Mais dans une continuité, quand même. Ça s'inscrit dans une continuité. Il n'y a pas de
rupture.
Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture ainsi.
Oui. Alors, on va retrouver toujours ce que tu fais, c'est ce style maintenant que tu as l'air d'avoir véritablement adopté. C'est un peu différent de Marine, je trouve. Le ton, hein,
au niveau
un ton plus épuré, etc. Puis il y a ce que dit l'éditeur sur. Le côté impressionniste, elle dit dans ce style épuré et impressionniste. Alors ça c'est tout à fait, c'est exactement l'impression moi que j'ai ressenti, c'est-à-dire on lit ces mots comme on regarde un tableau qui est fait avec des touches, avec des points par exemple, hein, où on va de... Et on a cette impression aussi de voir la réalité. Comme on regarde un tableau impressionniste, c'est-à-dire qu'on le voit, on voit très bien de quoi il s'agit, mais en même temps avec une sensation qui est un peu décuplée par rapport à la réalité, hein, du fait de ce détachement, de par fragmentation, et c'est exactement cette écriture, c'est ça, c'est une écriture qui est quand même une écriture fragmentée, qui est aérée, hein, puisqu'il y a même dans des textes, dans la présentation de tes textes, c'est pour ça qu'il faut aussi l'écouter, mais il faut surtout le lire après, puisque la présentation, la mise en page du texte est important. Le fait que, par exemple, la pluie, puis en train de tomber, entre la pluie et en train, il va y avoir un espace qui va demander au lecteur de se reposer un peu dans sa... Bon, et qui va quand même... aggraver cette impression du texte, hein, comme les impressionnistes par des petites touches espacées vont obliger le regard à voir une métamorphose de la réalité et un autre regard sur la réalité. Alors c'est tout à fait ça, moi je vois dans cette écriture véritablement une écriture impressionniste, hein, c'est-à-dire ce sont des peintures aussi, scènes de rue, comme tu disais, peintures, qui ressortent par ce langage, par la langue, et puis par le rythme.
Le rythme. C'est ça, ça c'est important.
Voilà.
Et, d'ailleurs,
et le rythme, tu le marques aussi par ce que je disais sur le papier. Hein, il faut pouvoir le lire aussi.
Oui, c'est
le regard est important aussi. Le regard que l'on jette sur le texte écrit.
Claude Barrère m'a parlé d'une typocénie.
J'ai trouvé
le terme,
je vais le noter, c'est vraiment
typocénie.
Oui, une typocénie, voilà, c'est ça, oui. Oui, je pense que lui, c'est un spécialiste aussi de ça. Il a ce côté plasticien, et puis cette méticulosité, par exemple, qui le caractérise quand même.
C'est vrai. Un grand admirateur, je crois aussi, d'après ce qu'il m'a dit, d'André Duboucher.
Oui, voilà, alors là, oui. Alors. Mais André Duboucher peut aussi déboucher par un minimalisme dans l'épurement qui devient quand même qui peut arriver jusqu'à être inquiétant à force de je ne sais plus qui c'est qui parlait de ses poèmes en chiure de mouche. Chiure de mouche. Bon, c'est Bruno de Rocher, il y a déjà longtemps, il parlait de ça, en disant qu'il fallait se méfier de ça, de cette espèce de minimalisme qui arrivait et qui fait que le poème, en définitive, se réduisait à quelques chiures de mouche sur une page. Bon, là, c'est pas du tout le cas.
C'est pas gentil.
Voilà. Non, c'est pas gentil, mais ça veut dire qu'il peut y avoir dans ces années-là, ces années 70, il y avait aussi cette poésie qui était une poésie de, un petit peu de laboratoire, où effectivement, il y avait trois mots qui venaient d'un poème et qui étaient dispersés dans la page. On peut arriver à ça. Et ça effectivement, c'est une caricature de la poésie.
Ouais, il ne faut pas qu'il y ait trop d'air.
Oui.
Il faut pas qu'il y ait trop de. Effectivement, il faut.
Il faut le réussir.
Il faut le réussir. Parce que c'est ce qu'il fait, quand même. Duboucher, il est parfait.
Oui, oui, mais voilà, Duboucher, bien entendu.
J'ai beaucoup d'admiration aussi pour lui. Et qui est la résonance permanente, quand même.
Oui.
D'une page à l'autre.
Alors, toi, ce n'est pas une poésie minimaliste au sens caricatural du terme, loin de là. Hein, ce que je voulais dire, parce qu'après Duboucher, il y a eu cette caricature de la poésie minimaliste qui s'est débouchée d'ailleurs sur la page blanche. Le silence, bien sûr, mais pourquoi pas.
Oui.
Mais toi, c'est autre chose. Toi, tu es un poète impressionniste qui fait par petites touches, tu poses des trucs, ça tac. Comme des taches de couleur, et ces taches de couleur vont constituer le tableau. Hein. Voilà, c'est comme ça que je te lis, moi, en tout cas. Hein.
Je te remercie parce que c'est ce que tu dis. L'un des responsables de la revue Phaéton, qui va me publier trois textes en septembre. La revue Phaéton, qui est quand même une revue prestigieuse, dont je suis très fier. D'avoir appris que j'étais retenu. M'a dit, donc c'est Pierre Landette, m'a dit exactement la même chose que toi. Il a vu dans ses textes une poésie fragmentée, et comme tu le dis. Moi, je me découvre, hein, effectivement, j'ai du mal à la définir, cette poésie. C'est moi, voilà, c'est ce que je peux dire, c'est que c'est moi, mais après, effectivement, je fais confiance aux gens qui apprécient.
Un jour clair, une aurore, quand les couleurs chaudes teintent quelques nuages, commencer, plus tard, un peu de soleil sur les paupières, des nous, on ne sait pas, là, au fond, le temps dessille, là. Alors on va t'écouter peut-être dans ces textes vers l'été.
Oui. Au pic, le froissement a formé la corniche où cinglent les autans. Par de multiples cassures, la pente conduit vers un aplat d'alabastrite. De sorte que, seul l'instinct peut encore fendre jusqu'à l'enchâssure du bleu. Un cercle lunaire qui argente les sommets se découpe au rasoir dans le champ des astres. Dessous éclairé comme près de la lampe, chaque mot sorti d'une histoire insondable, de la valeur d'un pas, de la nature du silence, seul et ne donnant rien à voir que la polarisation. En passant, regard orienté sous le pont, croise un autre regard, coloré, le tag, nommant le passage, jalonnant le même chemin, ici, au soleil des beaux jours, rendu singulier. Vallée glaciaire, après la neige de printemps, peau et lèvres desséchées. Le vert diffus mêlé de rayons. Un soleil proche et que retient la terre. Nappe lourde autour des yeux. Ce moment où l'homme arpente un méandre d'Ariège, parmi les pollens persistants, en l'air. Le jazz et ce filet d'eau quelque part, ne sachant ni le lieu ni l'origine. Odeur de neuf dans l'habitacle du bicor. Seul avec soi et cette eau qui glisse enfin le long des nerfs. On roule sur l'avenue, l'argot de nuit. Dans les clartés de l'éclairage public. Le jazz. Source silencieuse. Où plonger. Dans le jour multicolore des projecteurs, le cuivre de sourde les vents, par la bouche impulsée, le mouvement s'affine sous l'action des doigts. Page d'air dont la nuit est diégèse, qui se glisse dans les crânes. Jeu des pieds soulignant le rythme au sol. Jeu des sons donnés aux mots, battant contre tout volume.
Alors Jean-Michel Tartère, il y a un texte moi, que j'aime beaucoup, qui est celui-ci. Que tout ramené à soi détruit. Le savoir, l'intégrer. Eau vive, la vie va, c'est tout. Ici, maintenant, vers l'été. Donc, tout ramené à soi détruit. Donc, il y a, là aussi, là, on ne peut pas dire qu'on soit là devant une scène de rue, ni devant un tableau quelconque. Mais toujours par cette méthode impressionniste avec les mots que tu assembles comme ça par petite touche. Tu dis quand même des choses qui sont en définitive, c'est un poème tout à fait métaphysique. Mais comme toute grande poésie, il y a une spiritualité aussi derrière tout ça.
Assez indéniable.
Voilà.
Oui, c'est indissociable de la poésie.
Et c'est une métaphysique. Hein. Et bien entendu, tu débouches, que tu le veuilles ou non, tu débouches sur un regard un peu moral. Hein, que tout ramené à soi détruit, bon, c'est un regard moral que tu poses sur quelque chose. C'est à la fois une constatation.
Oui.
Quelque chose de tout à fait métaphysique, c'est vrai que si tu ramènes tout à toi, tu fais pas grand chose. Hein?
C'est ça. Ouais. Et moi, ça m'est venu, un moment, j'étais dans le train, et puis je pensais au miroir, l'effet de miroir, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qu'on est, quoi? Si on regarde un peu au dehors, autour de soi, on s'aperçoit qu'on est rien, quoi. Et que tout ramener à soi détruit, oui, parce que c'est... La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas soi. La vie, c'est tout ce qui est hors de soi et ou bien soi, mais comme un jaillissement, quoi. C'est-à-dire aller vers l'autre.
Aller vers l'autre.
Et oui, c'est ça. Ouais. Aller vers au-delà de soi. C'est ça la vie. Oui.
Et il y a une très belle image, puisque bon, tes poèmes sont aussi des images. Hein. C'est sur le canal du Midi.
Ah oui.
Voilà, le canal du Midi, où tu dis ça. D'un pont à l'autre, l'eau du canal a changé, vent levé, l'eau à sa surface, assombrée. Les passants devenus silhouettes improbables traversent le temps d'un regard furtif. La pluie en train de tomber. Les arbres se découpent sur fond de ciel noir, bougent leurs branches. On tente d'échapper, le corps déjà trempe. Seuls quelques mots, automne ou printemps. Hein. Alors, on peut lire ce texte aussi, puisque la couverture avec cette photographie du canal de Dominique Fernandez est en rapport, bien sûr. Voilà, alors on va peut-être, dans les dernières fractions du jour, lire, pour terminer, lire quelques textes, si tu le veux.
Oui. Hein? Je pense à Pierre Soulages.
Ah oui.
Pierre Soulages, dont un poème, deux textes sont en lien direct avec son concept de lumière du noir.
Oui. Oui, ça va très bien. Noir,
lumière.
Noir et blanc, oui.
Oui, oui, c'est ça. Outre noir.
Oui.
Voilà. C'est le titre. Alors, donc, j'ai mis en exergue une citation de Pierre Soulages. Si l'on ne voit que du noir, c'est qu'on ne regarde pas la toile. Au cœur du noir, les pans de lumière taillés comme des tranches, traces de glissement au couteau sur la pâte, jusqu'au jour fondu à l'acier. Bout de jour, bleu sur les bords, laissé par le passage du couteau. Comme l'eau glisse au fond, lénitive.
Alors là, il faut voir quand même les œuvres de Soulages, hein, pour bien.
Oui. Et c'est en revenant de Rodez,
du musée.
Voilà, que j'ai écrit ça.
Soulages. Oui, oui. Oui, qui est assez impressionnant, ce musée.
Oui, hein? Magnifique. Oui. Et je trouve que ça correspondait bien, ça s'intégrait bien aux fractions du jour.
Oui.
Parce qu'on est vraiment là-dedans, quoi.
Et alors, il te faut aller voir ces vitrailles à Combes. Hein?
Oui,
à Conques.
Il y en a une série, là, quand même, dans son musée aussi.
Oui. Alors on va finir, si tu le veux bien, sur le jazz.
Ah oui, avec plaisir, oui, oui, oui.
Le jazz est ce fil d'eau quelque part, ne sachant ni le lieu ni l'origine, odeur de neuf dans l'habitacle du bicorps, seul avec soi et cette eau, qui glisse enfin le long des nerfs, enroule sur l'avenue, largo, de nuit, dans les quartiers de l'éclairage public, le jazz, source silencieuse ou plongée. Bien, merci beaucoup, Jean-Michel Tartère.
Merci à toi, Christian.
Donc, Vers l'été, suivi de Fraction du jour, aux éditions NEB, collection poésie, de Jean-Michel Tartère. Vous trouverez bien entendu tous ces renseignements sur notre site les-poètes.fr. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Bonsoir.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus, leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère, et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié, avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remoueront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles.